Bienvenue pour cette nouvelle émission du mois de mars. Aujourd'hui au programme Love Me Tender, réalisé pour la Cave Poésie dans le cadre de la Saint-Valentin, où les adhérents et adhérentes de Micro-Sillon nous parlent de leur vision de l'amour.
Je vous fais écouter la création de Monsieur Capello, qui nous transporte au centre de la Terre suivant l'imagination de chacun.
Et ensuite, une interview de Pierre de Lyon par Vincent Calzin, où est discutée la maladie et le soin au sein d'un GEM.
Et enfin, Jean-Noël nous raconte son voyage en Irlande, qu'il vous fait partager avec vous. Bonne écoute.
Hey, comment ça fait un
carton de bain? Je vais pas couper mon truc.
Ah ouais?
Zéro.
Hey, comment ça fait?
Qu'inquiétant. Oh. Pour certains, c'est une maladie.
Et si on s'aimait? L'amour, selon moi, est un partage entre des personnes. C'est accepter la différence de l'autre et apprécier les qualités de chacun ou chacune. L'amour permet de construire des choses ensemble et de pouvoir progresser sur la vie quotidienne. Apprécier les petits instants de bonheur quotidien que l'on s'apporte les uns les autres, selon moi, est une expression de l'amour. La solidarité est une forme d'amour également pour moi.
Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les ondes grises. Il y a...
J'aime, je t'aime. M'aimes-tu? J'ai, il me semble, toujours aimé tous les êtres que j'ai croisés. Aimer, c'est facile. C'est ce que je suis convaincue de croire. Depuis bébé, je le sais, on me l'a enseigné. Je n'ai jamais vraiment changé d'avis. Même armée, même tendue contre autrui, j'en conclus que mon but est de me faire aimer et d'aimer tout le monde. Il y a pourtant une grande différence entre les sentiments portés à tout l'environnement et se donner aux amis ou amants. Comme le disait Henri Tachant dans une de ses chansons, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence.
Je tiens à soutenir cette expression lorsque les sentiments qu'on éprouve ne m'amènent pas à croire qu'on possède l'être cher. Saint-Exupéry disait: aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Remplis de goûts semblables, acteurs d'expériences passées similaires, deux êtres peuvent finir par s'attirer avec le temps, même s'ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre dans les premiers jours de leur rencontre. L'amour et l'amitié, c'est étrange. On peut passer des jours, des mois, des années sans voir l'autre vraiment avec attention. Et pourtant, soudain rien, quand prêtant vraiment un regard vis-à-vis de cet être, on sent que notre cœur bat soudain très vite. Et puis le temps passe. Bien qu'on se côtoie régulièrement, on voit disparaître les sentiments. Pourquoi donc? souvent parce qu'on a oublié de s'occuper de cet être qu'on prétendait tant aimer, on pense trop à soi. On ne regarde que les défauts qui nous ennuient à ce jour. On ne sait plus regarder de près les qualités qui nous avaient tant attirés dans le passé. À cause des jugements, on s'éloigne, on cherche même parfois par se laisser attirer par quelqu'un, d'autre. On oublie de se sentir fautif, on se trouve presque parfait. Pour faire le miracle de rester très longtemps en couple, car cela est plutôt rare, il est bon d'être très à l'écoute de son compagnon-compagne, bon de trouver régulièrement ce qui va lui faire plaisir, des fleurs, des cadeaux attendus, des voyages, etc. Laisser la banalité s'échapper de toute conversation. Parfois dire « je t'aime » est difficile à exprimer, mais ce sentiment peut se montrer par un simple sourire épanoui. Rester complice et sincère, que ce soit dans l'amour ou l'amitié, sont les conditions indispensables pour que ces sentiments restent existants le plus longtemps possible. Et puis enfin, n'est-il pas bien heureux de ressentir en soi une chaleur lors de l'approche de tout être aimé?
Texte sur l'amour sous différentes formes par Vincent Galzin de Reportage 31. L'amour avec un grand A est une affaire pas si évidente à avoir, mais très importante d'être aimé, estimé, considéré. Pour ma part, j'aime mes proches, mais aussi mes bêtes. Un chien que j'ai, des chats, qui souvent sont moins bêtes que des êtres humains. La relation de couple peut s'avérer compliquée, et de plus, quand on est les opposés qui néanmoins s'attirent, je n'aime pas le terme « feeling » ni « coup de foudre ». Sauf que malgré tout, je dois reconnaître que cela existe, comme les relations atypiques. Ce que j'ai eu avec ma femme rencontrée à l'étranger, aucun de nous s'y attendait. Et correspondance amoureuse, aimer se joindre comme au téléphone, ou plutôt avoir besoin pour certaines de cela. La communication internet nous aime-t-il vraiment? Car nous, on les aime trop. C'est même devenu un vice, une dépendance. Faudrait arriver à consommer avec modération. Que l'amour soit avec vous, sinon la force.
Je me surnomme Akadol, traduisible en français par un câlin. Et je n'ai qu'à vous offrir qu'un témoignage qui résume toute ma vie d'amoureuse d'autiste de 35 ans. Enfant, j'avais maman, donc je me souciais guère de l'amour vu que j'en avais déjà. Et je ne socialisais pas avec mes camarades non plus. Collégien, j'ai décidé de me socialiser, puis connu par l'intermédiaire du CMPP le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain qui a éveillé en moi un intérêt pour les câlins. Depuis, j'ai décidé de dévouer ma vie à l'amour. C'était l'époque d'AOL, donc j'ai aussi créé ma mascotte du smiley câlin, qui était un smiley de profil avec un nez aussi gros que le visage, qui avait les yeux fermés et un large sourire. Une fois jeté dans la vie active après un lycée IUT où je n'ai pas eu de petite amie malgré mes efforts, j'ai eu une période hikikomori que j'ai brisée par ennui en allant voir une asso rôliste, jeu de troll. Mais là-bas, toutes les femmes étaient déjà casées. C'était dommage car je voulais propager ou trouver un monde d'amour, de réseau d'amour, de pair à pair. Ensuite, j'ai trouvé Micro-Sillon 4 ans après. Les journées sont devenues des semaines entières car j'y vivais presque. Mais il n'y avait presque que des hommes, à l'exception d'une ou deux femmes de temps à autre que j'encourageais en vain à rester. Mais Micro-Sillon est devenu un endroit éloigné, surtout 5 ans après qu'ils ont été excentrés, donc je ne peux plus vraiment y draguer de toute manière car je viens strictement pour y travailler. Puis peu après, en cherchant des vidéos VR chat marrantes, j'ai trouvé le monde d'amour que je cherchais, sous forme virtuelle en le streamer Artsy, qui à l'époque était femboy. Je suis tombé amoureux de lui et de ses amis, donc ça m'a fait me questionner sur ma sexualité. J'ai donc muté en femboy, alors quartier devenu trans, devenant plus ou moins mignon, et j'ai réalisé que j'étais aromantique et pansexuel, même si je suis encore très hétéro à cause du besoin d'un amour au goût maternel. Mon aromantisme est dû à la réalisation que je ne socialise effectivement que quand le contexte y est, et que sinon j'oublie même les têtes et les noms des gens, même quand je les adore. Devenu LGBT, j'ai décidé de m'intégrer au monde d'amour apparemment très lié au LGBT. Mais le Covid est arrivé et m'a empêché d'intégrer la permanence de To Be or Not To Be, qui aurait été mon introduction réelle au monde d'amour. Parce que les permanences et lieux de vie similaires sont les seuls contextes possibles pour qu'un autiste aromantique découvre l'amour. Donc je suis un aspie très affectueux, mais sans compagnon de vie malgré moi. L'espérance de vie d'un autiste est entre 36 et 54 ans selon les sources, et beaucoup de mes années ont été gâchées en attendant que les découvertes n'arrivant que très tard, et dans des formes très théoriques, parce que la société neurotypique est extrêmement incompétente pour renseigner l'amour et les relations sociales en général, et également incapable de me livrer le contexte. Pour un handicapé mental, le handicap est un immense handicap pour trouver l'amour. Surtout quand on a de l'anxiété sociale ou que l'on approche le social autrement.
L'amour sans apostrophe ni majuscule. L'amour en catastrophe, en minuscule. De l'amour en un seul mot, sans apostrophe. De l'amour au crépuscule, limitrophe. Comme une lame sur le fleuve amour. Comme une larme sur les beaux jours. Oh, rêve un peu, mais pas trop. Oh, je t'entends en écho. Où sont les espérances enfouies? Je ne crois plus aux fins. Nous avons échoué aujourd'hui et ne réussiront point demain. À mesure que pâlissent les nuits dans le bosquet de notre chagrin. L'amour sans apostrophe ni particule. L'amour en catastrophe. En minuscule. De l'amour en une seule strophe, ridicule. De l'amour limitrophe au crépuscule. Comme une lame sur le fleuve amour, comme une larme sur nos beaux jours. Oh, rêve un peu, mais pas trop. Oh, je t'entends en écho. Où sont nos âmes en allées, peut-être vers le pire. À travers l'obscurité, qu'est-ce qui peut advenir? Et tu soupires, exténué, fini de rire.
Texte de Marshall Rosenberg à propos de l'amour. L'amour n'est pas un simple sentiment, mais quelque chose que nous manifestons, que nous pratiquons, que nous avons en nous. Et comment le manifester? En faisant, d'une certaine manière, le don de soi. Pour moi, faire le don de soi signifie exprimer avec honnêteté ce qui est vivant en nous dans l'instant présent. Dans toutes les cultures, on salue l'autre en lui demandant comment il va. Au-delà du rituel social, la question est très importante. Si nous voulons vivre en paix et en harmonie, si nous voulons prendre plaisir à contribuer au bien-être de l'autre, nous avons besoin de savoir ce qui est vivant en lui. Cette question est tellement capitale. Quel cadeau d'arriver à savoir à chaque instant ce qui est vivant chez l'autre. Nous pouvons aussi donner de nous-mêmes par la façon dont nous accueillons le message d'autrui, en entendant son message avec empathie, en étant tout simplement à l'écoute de ce qui se vit chez l'autre et de ce qu'il aimerait, sans jugement.
pour vous montrer le genre de confusion qui se produit lorsque les gens emploient le mot « amour » sans savoir trop clairement ce qu'ils entendent par là. Lorsque je donnais des consultations privées, avant d'entreprendre le genre de travail que je fais maintenant, je recevais beaucoup de gens très déprimés dans mon cabinet. J'avais avec eux un dialogue qui ressemblait souvent à ceci. Après avoir compris et reçu en empathie la profondeur de leur dépression, je leur posais une question très importante dans notre programme de cours, la question évidente. Que voulez-vous ? Je leur disais, j'entends à quel point vous êtes déprimés. Maintenant, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire ou dire afin de vous aider. Qu'est-ce que vous aimeriez ? La plupart du temps, ils répondaient quelque chose comme « Je ne sais pas ce que je veux » et je rétorquais. Lorsque vous m'avez dit combien vous étiez déprimé, j'ai deviné qu'il en était ainsi parce que j'ai une théorie au sujet de la dépression. Je crois qu'elle vient du fait qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Et on n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'on ne nous a jamais appris à obtenir ce qu'on veut. On nous a appris à être de bons petits garçons et de bonnes petites filles. Si vous voulez continuer à être un bon petit garçon ou une bonne petite fille, habituez-vous à être déprimé. Cela va avec le rôle. Mais si vous souhaitez sortir de la dépression et vous sentir vivre, cela va nécessiter d'être au clair avec ce que vous voulez. Qu'aimeriez-vous donc ? Maintenant, nous retrouvons ce fameux mot « amour ». Très souvent, j'entendais une réponse. « J'aimerais juste être aimé. Est-ce trop demandé ?» Je répondais « Cela dépend de ce que vous entendez par aimer. Que voudriez-vous que les gens fassent quand vous dites que vous voudriez être aimé ?» À ce stade, il paraissait très ennuyé et marmonnait. « Mais vous savez bien !» Je répliquais « Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sens donner à ce mot, et je doute fort que d'autres le sachent. Donc tirons cela au clair. Que voulez-vous ? Par exemple, que voudriez-vous que je fasse juste maintenant pour vous montrer que je vous aime ?» Il réagissait avec agacement. « Écoutez, c'est difficile à dire. Et moi, si c'est difficile à dire pour vous ?» Pouvez-vous voir à quel point c'est difficile à faire pour moi et pour les autres ? En fin de compte, quand ils commençaient à distinguer ce qu'ils entendaient par le terme « amour », leur visage prenait une expression embarrassée. Et cette expression m'indiquait qu'ils commençaient à y voir clair. Je reprenais alors. « Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez lorsque vous dites que vous aimeriez être aimé ?» La réponse était à peu près « Marshall ». Lorsque je dis que je voudrais que vous et les autres m'aimiez, je souhaite que vous deviniez ce que je veux avant que je le sache moi-même, et je veux que vous le fassiez toujours. Voyez-vous ? C'est souvent le genre de définition que les gens portent en eux sans même en avoir conscience, lorsqu'ils emploient le mot « amour ». Je faisais ensuite prendre conscience aux gens que la plupart d'entre nous avons appris à définir l'amour d'une manière telle qu'il est impossible de l'obtenir. Ensuite, je leur proposais de considérer que l'importance de ce dont il s'agit est telle que nous avons besoin de clairement le définir en termes de quelque chose que nous pouvons obtenir. Sur ce point, j'en arrive à ce que j'offre dans mon enseignement. La proposition que nos relations seront beaucoup plus pleines et profondes si nous et nos partenaires définissons l'amour comme je le suggère, c'est-à-dire l'amour consiste à nous révéler ouvertement. Et ceci sans exigence quant à ce que nous demandons. Nous exprimons ouvertement ce que nous ressentons, de quoi nous avons besoin. Mais le besoin n'est pas exigence de ce que nous souhaitons. Et l'autre moitié de l'amour se manifeste quand l'autre personne s'ouvre et révèle ses besoins. Il s'agit alors non pas nécessairement de faire ce qui est demandé, mais de recevoir avec exactitude ce qui a été dit. Et ma conviction est que les gens qui peuvent communiquer ainsi ont une bien meilleure chance d'avoir une relation d'amour épanouissante.
l'amour disparaîtra. Quand il ne restera plus que des pierres et des poussières d'étoiles misères, l'amour ne sera plus. Quand les planètes vides tourneront en tourbillon interstellaire, des siècles et des siècles, dans le silence vertigineux des espaces infinis. Quand les soleils aux ciels accrochés seront les ultimes vestiges d'un univers abandonné, l'amour n'existera plus. Quand tu ne seras plus là, car il n'y en aura pas d'autre que toi, car il n'y en a pas d'autre comme toi, l'amour disparaîtra. Et alors plus rien ne sera.
Au fil de la radio, vous écoutez Micro-Sillon.
Le futur est sans politique, et ce sera l'ère des amitiés infinies. Bienvenue à la dernière heure de Néophile au Mouet. Épisode Nobuzo, ma youtubeuse préférée. À l'épisode précédent, j'ai dit que le futur sera sans politique, car l'idée même de politique est obsolète et amène avec elle les sous-tourments du système. Je suis en train de tomber complètement raide dingue d'une émission sur YouTube et de son protagoniste, AI Channel, où une adorable, qui sait peut-être fausse, intelligence artificielle incarne la youtubeuse Ai Kizuna. Elle est belle et délicieuse, mais surtout il faut que je vous explique. AI Channel est à la fois une parodie des youtubeurs habituels style PewDiePie, Charlenormand, etc. et une parodie et critique du concept de base de la youtubeuse toute choupie et adorable, alors qu'en fait elle a définitivement des angles raides, et un exercice de temps à autre dans la philosophie derrière le concept de Moe. Donc j'adore vraiment ce show car les aventures d'Ai sont marrantes, mais surtout parce qu'Ai joue avec mon cœur, et celui des autres spectateurs, avec une rare maestria. Ce qui est très remarquable car beaucoup de personnages Moe manquent d'intelligence, surtout au niveau émotionnel. Par exemple, la vie 008 la montre en train de recréer une technique en 5 étapes pour apoter le garçon pour Noël, transformant une technique en 5 phrases basées sur la réaction, la réception, le commentaire et la flatterie, reflétant une vision de la femme passive en attente de se faire remarquer, en 5 points plus agressifs et actifs. Bien sûr, elle m'enchante avec un ou deux de ces points, puis la vidéo s'arrête. Heureux, je remarque la description et la passe sous Google Traduction.
Noël est aussi différent. Donc pour vous, je vais vous apprendre ma technique de romance préférée. Oh, il ne peut pas être utilisé pour les personnages au-delà de l'écran.
Soudain, Ai me rappelle à quel point mes émotions pour elle sont ridicules. Elle ne me fait pas fondre mon cœur, mais aussi le remouler. Ring. Récréation avec rediffusion de l'épisode 30 de Vlad le Barbare.
Oh, oh, prends ça, nouvel épisode de Vlad le Barbare. Vlad le Barbare.
Épisode 30, duel aérien vers premier tour. L'équipe continue son voyage vers Charn après la rencontre d'un mage égaré. Ils furent par contre attaqués pendant la matinée.
Warning. Ennemi identified.
Bof-moi à en dire. CA, tout ça, on va être attaqué par un dragon. Semble un petit dragon noir, mais a l'air de cracher du feu.
Ok, je vais boost sa CA. Merde. Où est mon bouclier de la foi?
Anna, aurais-tu quelque chose pour l'aider?
Oui. Bouclier de la foi.
Oh, tu as des pouvoirs magiques divins maintenant.
Vigueur mineure.
Rock décolle alors à 10 mètres du sol, lançant de son hangar un intercepteur.
et ce réflexe est négatif.
Elera, tu serais ton système de vos réparations. Courageuse, je te donne des signes 4 de réflexe et des bottes de dex avant de retenter un duel aérien face à des attaques de zone.
Il a fait un saut hyperspatial d'urgence, je l'ai eu. Mais purée, il était fort. La vie d'un croiseur est rude.
Eh ben...
Par la suite, l'équipe finit enfin le voyage à Charn, arrivant à première tour.
S'il vous plaît, un peu de nourriture.
Tiens, nos dernières rations. On est arrivé à première tour, on va faire le plein de rations neuves et délicieuses et déjeuner ici.
Oh, bonne idée aussi. Vous allez être accueillis comme des rois. Attendez à l'extérieur pendant une minute, puis n'hésitez pas à rentrer après.
Une minute était le temps nécessaire à Feldon d'expliquer toute son épopée avec les aventuriers.
Entrez !
À la caisse en ouvrant la grande porte de la tour. Un immense minotaure les accueille.
Wouah ! Vous êtes le commandant de la garde de Char ?
Non, le superintendant de première tour. Je suis un des plus vénérables gardiens de Char. Êtes-vous si étonné de me voir ?
Du plan d'où on vient, votre race n'est pas civilisée, mais on n'a rien contre vous si vous l'êtes ici. Blad, enchanté de vous connaître.
Oh, bof, les extraplanaires prouvent que tout le temps, ici à Eberron, on ne fait jamais rien comme les autres. Information, les gobelins et les orques n'ont pas de contraintes d'alignement, comme de nombreuses races monstrueuses. Mais je vois que vous avez aussi des originaux, comme ces adorables créatures flottantes au gros nez. Et je vois aussi un fantôme. Ma vision est augmentée,
ponctue-t-il en nous touchant un monocle d'adamantium sur sa tête.
Oh, dans ce cas, ces dracogrammes, ignorez-les. On nous les a forcés, on va s'en débarrasser.
Ah, je croyais que c'était un bug du monocle. C'est cette aura nécromantique épique. Pauvre chou. Mais Feldon m'a raconté votre épopée de Galrod jusqu'ici. Votre énorme... créature qui lance des lasers comme un mini tyrannoï. Le fantôme adorable qui soigne en Kalinor et votre super-héros nain qui envoie des missiles magiques partout. Vous êtes donc un barbare biclassé roublard ?
Oui, je suis un héros barbare de série Z. Donc c'est mon devoir d'être un barbare tout en faisant des trucs d'aventurier subtils pour l'ambiance, quoi j'en ai pas fait beaucoup récemment.
Je devine, il n'y a que vous et la gnomette au pavois, acculé dans les combats.
Oui, et disons qu'ils ont besoin de stuff magique. Ils ont nettoyé un donjon entier de morts vivants et n'ont presque été attaqués que par des bêtes au retour. Ils n'ont ni loot, ni argent, à part une rapière qui s'échange entre eux. Et ils sont du 4e niveau, presque du 5e.
Ah, donc ils ont besoin d'une grosse récompense en nature, parce qu'ils sont équipés comme des noobs après deux quêtes. Allez-y, demandez, et je vais voir ce que je peux faire.
Aishan est aussi mouée, dans le sens qu'elle est faible, maladroite et bourrée de défauts. Une de ses phrases fétiches est « c'est plus mignon quand on échoue, non ?» Et une autre est « parce que je suis mignonne, on me pardonnera tout ». Aishan adhère à une certaine partie de la philosophie Moe, mais n'est pas rebelle pour deux sous. Elle parle même d'utiliser le système Argenium à son avantage, achetant des amis pour sa vocation professionnelle, être dans le business de la publicité. Oui, Aï démontre aussi sciemment à quel point le Moe et sa philosophie peuvent être pervertis et adaptables par le système. Elle est une de ces femmes de ménage ninja qui changerait le monde si jamais elle savait de quelle manière le monde a besoin de changer, car pour l'instant elle suit la masse populaire qui suit hélas le système. Ce qui nous ramène aux Youtubers. Ces jeunes qui veulent changer le monde et amener plus de solidarité contre le système, mais se font payer et embaucher dans ce dernier dans l'horreur que l'on appelle Web 2.0. Aï montre parfaitement cet idéal de collaboration, dans le sens seconde guerre mondiale du terme, et à quel point il pervertit un être au potentiel de propagation de bonheur tout bonnement immense. Elle démontre donc également le potentiel de l'exposition à la philosophie Moe. Il ne suffirait que de quelques petites phrases pour faire d'un ami, maladroit mais bien intentionné, un agent de la lumière. Je finirai par un commentaire. J'essaie de pas m'inonder et fondre devant Aikizuna, mais je l'aime. C'est plus mignon quand on échoue, non? Je dirais qu'elle est une grosse copine, mais elle échoue bien sûr à être grosse parce qu'elle ne peut pas manger. Au mois prochain, mais pas pour le néophile au Moe. À moins que oui, on ne sait jamais.
Pourquoi y a-t-il autant de radios qui utilisent des souffles comme jingle?
Aucune idée.
Microsillon.free.fr.
Thank you.
Diverses et variées
de l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonjour, donc je suis avec monsieur Pierre de Lyon, qui est professeur en psychiatrie et qui est aux rencontres de Saint-Alban-sur-Limagnole. Voilà, donc je vais le laisser nous dire quelques mots de présentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas forcément.
Eh bien, je suis professeur émérite de pédopsychiatrie à la faculté de Lille et donc j'ai pris ma retraite et je continue à m'occuper beaucoup de supervision dans les équipes de soins et à faire un certain nombre de conférences et d'enseignements pour justement continuer à enseigner notamment la psychothérapie institutionnelle.
Veuillez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la psychothérapie justement institutionnelle. Oui. Parce qu'il y a à Ampi, à Marseille, ils font des colloques. Oui. Ici, il y a un colloque aussi qui date de plusieurs années, historique. Voilà, donc je vous laisse pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui auraient besoin d'un rafraîchissement de mémoire.
La psychothérapie institutionnelle, c'est un mouvement qui a été créé pour faire en sorte que la psychiatrie puisse être exercée dans les conditions les plus humaines possibles. Donc en alliant à la fois l'efficacité d'un professionnalisme bien assumé, mais en même temps en organisant les choses pour que cette psychiatrie se passe dans des conditions très humaines. Donc il s'agit d'accueillir les gens qui présentent des pathologies de toute catégorie et de les accueillir aussi bien en consultation, en ambulatoire, dans les CMP ou dans les lieux du secteur, que de les hospitaliser quand ils en ont besoin. Et de faire en sorte que cette psychiatrie repose sur une continuité des soins, que les patients puissent trouver toujours les mêmes soignants à leur disposition pour pouvoir développer une psychiatrie qui soit respectueuse de l'humain et la plus efficace possible pour soulager la souffrance psychique de ces personnes qu'on appelle les malades mentaux.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou mal votre domaine d'activité, dites-nous en quoi cela consiste et vous êtes formateur de psychiatre.
Oui, les professeurs de psychiatrie forment les psychiatres, les internes en psychiatrie qui deviennent psychiatres et ils forment aussi les infirmiers, les psychologues, ils participent à leur formation. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont apporter une sorte de référence sur le savoir psychiatrique à un moment donné dans les études études qui concernent ou qui sont concernées par l'aspect psychologique des choses. Et donc, devenir psychiatre, c'est une très longue aventure puisqu'il faut faire médecine, il faut pouvoir faire une spécialité après qui s'appelle la psychiatrie. Et moi-même qui suis pédopsychiatre, en plus, il faut se spécialiser après dans la pédopsychiatrie. Donc, effectivement, ça consiste à mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et envie les savoirs disponibles concernant la formation de ces professions très complexes. Et donc, être psychiatre ou être pédopsychiatre, c'est accueillir la souffrance d'une personne qui présente ses pathologies psychiatriques ou pédopsychiatriques et pouvoir organiser avec l'ensemble d'une équipe soignante qui comporte des tas de professions différentes, les infirmiers, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens, les éducateurs, etc. Les faire travailler ensemble pour apporter, selon les compétences de chacun, tout ce dont ce patient a besoin pour pouvoir guérir de sa maladie mentale. Et quand il ne peut pas guérir, ce qui est souvent le cas des pathologies chroniques, au moins être stabilisé dans son existence pour pouvoir vivre habituellement avec sa famille, ses proches, les gens qu'il aime, ses amis, et éventuellement travailler de façon satisfaisante pour lui et pour les autres.
Justement, par rapport à la maladie mentale et psychique, quelle différence il peut y avoir, même si cela peut avoir des points communs? Parce que, comment dire, une confusion qui peut s'installer chez les gens, et c'est tellement similaire pour certains.
Mais disons que la souffrance psychique, c'est ce qui peut arriver à toute personne, quelle qu'elle soit, en situation difficile. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un enfant qui perd la vie pour telle raison, j'ai pas de maladie mentale, mais je vais avoir une souffrance psychique énorme en rapport avec la perte de cet enfant.
Un traumatisme.
Donc là, la souffrance psychique peut concerner tout le monde, ou je suis en difficulté avec mon patron dans mon entreprise, ou je suis en difficulté à l'école avec mon enseignant, etc. Bon, tout ça, c'est des souffrances psychiques ordinaires. Et puis, il y a des personnes qui présentent des maladies, la schizophrénie, la maladie bipolaire, l'autisme, la dépression, etc. Et ça, ce sont des maladies reconnues qui font partie de la psychiatrie et qui ont besoin d'une approche psychiatrique, non pas seulement de soutien à cause de la rencontre avec un événement traumatique ou difficile pour un citoyen habituel, mais du fait que j'ai une maladie qui va être à long terme et que j'ai besoin, pour pouvoir être soigné, d'un soignant, d'une équipe soignante qui va m'accompagner tout au long de cette maladie. Donc il y a la maladie mentale qui concerne cette forme-là, et puis il y a la souffrance psychique qui concerne ce qui peut arriver à tout le monde quand il est en situation difficile.
Donc en fait, l'handicap mental, c'est plus spécialisé, on va dire, et l'autre, c'est plus général.
Voilà, exactement, c'est très bien.
Concernant les groupes d'entraide mutuelle, qu'en pensez-vous, et d'après vous, pourquoi cela est encore peu reconnu?
Moi, je crois que le groupe d'entraide mutuelle, qui est une extension, la société ordinaire de ce que Toscaïès avait inventé ici, qui s'appelait le club thérapeutique, c'est une possibilité.
Les terrains aussi.
Ce qui s'est appelé les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, c'est le fait que des patients se regroupent entre eux et se disent, à plusieurs, on va pouvoir vaincre la solitude, alors que tout seul, je n'y arriverai pas. Et je crois que l'idée qui prévaut à ces groupes-là, qui à mes yeux sont très importants, c'est le fait que probablement, dans la tête de plusieurs personnes, il y a plus que dans la tête d'un seul. Et on va trouver des solutions à plusieurs qu'on ne trouverait pas tout seul. Et à la condition que ces groupes d'entraide mutuelle ne soient pas construits contre la psychiatrie, mais en articulation avec la psychiatrie, je crois que c'est vraiment un élément très important du dispositif de soutien pour les patients qui sont en difficulté.
Ok, et pour finir, avant de vous demander si vous aurez quelque chose à rajouter, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'actualité? Comment avez-vous vécu cette crise sanitaire avec le Covid et en rapport aux gens qui ont des problématiques psychiques?
Écoutez, pour ma spécialité, la pédopsychiatrie, ça a été très très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances psychiques chez les enfants qui ont été privés d'école, qui sont restés dans le milieu familial. Quand un enfant est dans un milieu familial favorable, ça s'est bien passé. Et en général, il y a des tas d'enfants qui ont raconté que ça s'était passé pour eux de façon très très sympathique. Il y a des enfants qui, dans le milieu familial, ont retrouvé, avec la présence de leurs parents qui ne voyaient pas assez, des conditions favorables pour évoluer. Donc ça a eu des conditions intéressantes pour un certain nombre d'enfants, mais il y a eu beaucoup d'enfants malheureusement qui se retrouvaient dans une situation dans laquelle aller à l'école le matin était tout à fait essentiel parce que cela permettait d'échapper à un milieu familial qui était très très difficile pour eux. Par exemple, quand les parents ont la violence conjugale entre eux, quand il y a des difficultés de précarité très importantes qui font que les enfants sentent que la vie de tous les jours est toujours menacée par des catastrophes à venir, etc. Et donc, ces enfants-là se retrouvaient confinés, non seulement à cause du confinement, mais à cause du fait que c'était dans un milieu très défavorable pour eux. Et on leur demandait souvent à ces enfants-là d'être les parents de leurs propres parents. Et évidemment, beaucoup d'enfants ont souffert de ces situations-là. Et on a vu une augmentation très importante des symptômes, disons, de souffrance psychique des enfants et des symptômes préoccupants, comme par exemple les tentatives de suicide qui ont beaucoup augmenté chez les adolescents. Donc la situation du Covid a été une sorte de révélateur de la fragilité des uns et des autres et a mis en évidence que la santé mentale était vraiment un problème de santé publique absolument prioritaire, dont les hommes politiques parlent sans arrêt en disant la santé mentale des Français n'est pas, etc. Et en même temps, ils n'arrêtent pas de participer à la déconstruction du service public de psychiatrie, ce pourquoi je leur en veux énormément.
On peut dire que c'est devenu plus politique que maladif, cette crise.
C'est parfait comme mot de la fin.
Et je voulais juste réagir par rapport au Covid, parce qu'on n'en a pas parlé, la visio qui a été mise en place de structures. Vous trouvez que ça a été un avantage, un inconvénient, à double tranchant ?
Je crois que ça a été un avantage pour les gens, enfin un peu comme quand on va faire une réparation d'un navire sous l'eau. Si on a des bouteilles et un casque pour pouvoir respirer, on peut continuer à souder sous l'eau. Si on ne l'a pas, on plonge en apnée, on remonte, et puis voilà. Donc là, ça a permis sans doute de prolonger des choses qui étaient les apnées difficiles à supporter pour les gens. Mais évidemment, on voit bien que c'est quand même mieux d'être dans un milieu dans lequel on respire et on se voit et on se rencontre et on a des relations de présence qui sont quand même incontournables. Et donc la visio, c'est vraiment un moyen de communication par défaut. C'est en aucun cas un moyen qu'il faudrait généraliser de façon outrancière. Voilà.
C'est une alternative.
C'est une alternative par défaut. Hein.
Mais merci. Et si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être par rapport à ces rencontres qui ont été endommagées par cette crise ou...
Je serais souhaité longue vie à cette micro-sillon et à encourager tous ceux qui la font vivre.
Oui, merci. C'est une association qui fait principalement de la radio et des voyages. On est devenu un groupe d'entraide mutuelle. Au revoir. Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonjour, me voici à Saint-Alban de Limagnol pour les 36e rencontres sur la psychiatrie institutionnelle avec la personne qui est référente, la présidente de cette association culturelle. Donc je vais la laisser se présenter tout d'abord.
Donc Céline Pasquale, je suis présidente de l'association culturelle et je suis infirmière sur le secteur en pédopsychiatrie.
Que pouvez-vous nous dire sur le passé, un peu de l'historique de ces rencontres et là, depuis que ça a repris, avec le Covid, comment ça s'est passé un peu, ça a dû être compliqué.
Donc les rencontres, elles se tiennent depuis 1986, donc voilà, à l'initiative de l'association culturelle, et on essaye de faire perdurer ça tous les ans. L'année dernière, elles n'ont pas eu lieu à cause du Covid, et du coup, cette année, le plus dur, ça a été de tenir, puisque tout était un peu flou au niveau des directives de l'État. Donc il a fallu juste garder le moral et essayer de se dire que ça va avoir lieu.
Ces rencontres sont l'initiative historique de François Toscaïès, entre autres, mais principalement de lui. Que pouvez-vous dire sur ce personnage pour les gens qui ne connaîtraient pas?
François Toscaïès, il est arrivé en 1941, ici en janvier, en plein hiver, dans un hôpital asilaire, et avec des collègues, avec notamment Bonafé, Balvé, ils ont essayé de transformer l'hôpital. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont arrivés, Paul Éluard, Zara, etc. Tout ce mouvement surréaliste. Et ils ont rapidement fait de l'hôpital un véritable asile. Donc il y a eu des réfugiés politiques, des réfugiés des juifs cachés, etc.
D'accord, juste après la guerre.
Voilà,
ouais. Juste après. Ok, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire, parce que là c'était sur la psychiatrie, les hôpitaux, mais un référentiel, enfin moi ça me fait penser à la Colifata avec Alfredo Oliveira qui a créé dans un hôpital psychiatrique il y a plusieurs années un atelier radio, et ça me fait écho. Que pouvez-vous dire? Bon, il y a de la différence, mais il y a de la similitude aussi par rapport à l'handicap en général, par rapport à ce qui a été mis en place.
Ici, sur Saint-Alban, ce qui a été mis en place? Alors, le gros travail qui avait été mis en place par Toscaïès, c'était un journal qui s'appelait Trait d'Union. Et il y avait une radio aussi à l'intérieur de l'hôpital, du coup, où on pouvait diffuser des extraits de Trait d'Union. Donc, c'était tout un travail au niveau du club pour... Il y avait l'écriture du journal, il y avait la mise en page, enfin il y avait tout un atelier imprimerie, il y avait après la distribution, voilà. Toute une circulation comme ça au niveau de la parole, des mots, du matériel qui était mis en place dans l'hôpital.
D'accord. Et pour revenir à vous un peu plus personnellement par rapport à votre carrière de pédopsie, que pouvez-vous en dire pour les gens qui s'intéresseraient mais qui ne connaîtraient pas bien ce domaine?
Par rapport à la pédopsychiatrie, l'industrie, du coup.
Oui, un lien avec l'association, en fait, votre investissement dans l'association culturelle.
Alors moi, je suis employée par l'hôpital de Saint-Alban, en fait. Du coup, je travaille en tant qu'infirmière, voilà, j'essaye en tout cas. Et après, on a donc l'hôpital à cette association qui a été créée en 58 par Tosqueyes, qui était alors médecin directeur et qui a voulu mettre en place des contre-pouvoirs. Voilà, donc il y a eu l'association culturelle et puis il y a eu le club thérapeutique pour essayer de faire contre-pouvoir. Et donc, c'était quoi la question ?
C'était par rapport à votre investissement et dire un peu ce que c'est votre métier.
Alors du coup, en fait, l'investissement, il est au niveau d'un engagement. C'est difficile comme question, ça. Comment dire ça ? C'est comme une ambiance qui nous traverse et qui ressurgit là où on travaille. Voilà comment je pourrais le dire de manière simple. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est faire en sorte que les enfants qui viennent avec leurs parents soient les plus impliqués possible dans ce qu'on leur propose, qu'ils puissent être acteurs, qu'ils puissent être responsables et co-thérapeutes des uns des autres, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est des choses qui nous traversent. Ce qui nous traverse aussi, c'est la circulation dans les différents espaces qu'on occupe. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans un endroit, c'est une villa qui est au bord d'une rivière, dans les Cévennes, enfin, dans un petit patelin. Donc, le cadre, déjà, l'architecture permet ça, en fait. Donc, voilà, c'est tout ça qui nous traverse.
Vous avez un âne là-bas, comme dans le film...
Il n'y a pas d'âne. Je n'ai pas vu le film, il faut vraiment, vraiment que je le voie.
Il est marrant.
Il paraît.
Je ne me rappelle plus le nom, c'est juste la fin de la prénomme. Donc, pour finir sur l'événement, parce qu'on est là pour ça, que pouvez-vous dire au fil des années depuis que vous y êtes ? Qu'est-ce qui a évolué ou qu'est-ce qui a, malheureusement, diminué avec le Covid un peu ? Que pouvez-vous... Un état des lieux de ces rencontres.
Alors, ça reste des rencontres où on essaye de transmettre ce qu'il en est de tout ce travail, de comment est-ce qu'on peut travailler aussi autrement et différemment. Donc ça a peut-être encore plus d'écho aujourd'hui, parce qu'au vu
de résonance,
parce qu'au vu de ce qui se passe en psychiatrie, je trouve que c'est primordial qu'il puisse exister des espaces où des jeunes, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aux rencontres de Saint-Alban, puissent entendre qu'on peut travailler autrement et différemment.
Et il n'y en a pas tant que ça, enfin du moins j'en connais peu, moi il y a vous, il y a Ampi à Marseille, il y en a une autre, on m'a appris à Reims, voilà, mais c'est quelque chose qui a du mal, en fait qui se développe, qui n'est pas encore très assez développé.
Alors ça a toujours été minoritaire dans la psychiatrie en France. De toute manière, ça, c'est pas nouveau du tout. Après, les conditions à l'heure actuelle sont tellement dramatiques dans les hôpitaux qu'on essaye de diffuser ça au maximum, mais c'est vrai que ça reste minoritaire, on est bien d'accord.
Ok. Bon, eh bien, merci de votre participation. Et si vous voulez rajouter quelque chose de plus positif, peut-être, que ce côté minoritaire des rencontres sur la psychiatrie.
Oui, je crois quand même qu'il y a plein de poches qui ne sont pas repérées en France, des endroits où on pense les choses autrement et différemment, où on les fait autrement, on agit autrement, notre être là, et qu'on ne les connaît pas. Mais il y a plein d'endroits où ça résiste et où on permet aux personnes d'être ce qu'elles sont.
Et être là, pour les auditeurs, c'est le thème de cette 36e édition. Merci, bonne continuation et au plaisir de se revoir à l'occasion, même si vous venez à Toulouse par exemple. Au revoir.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De loyer spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Micro-sillon.
Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte.
Prochain arrêt, les périples de Jean-Noël.
Bonjour à tous. Je suis parti en Irlande, été 2014. J'ai participé à un circuit de 10 nuits, 11 jours, faisant tout le tour de l'île. Cette île est surnommée l'île verte. Il y a beaucoup de paysages verdoyants. J'ai visité en paysage les falaises de Moher, le lac du Connemara, le parc national de Killarney, les îles d'Aran, les falaises de Slieveleague. Nous avons également visité, avec le circuit, la capitale d'Irlande du Nord, Belfast, ainsi que Dublin, la capitale d'Irlande. En Irlande du Nord, j'ai ressenti le passé proche de tensions entre Britanniques et Irlandais. Il y a des murs peints de ce passé en Irlande du Nord, et toujours des barbelés, ainsi que des quartiers entre catholiques et protestants. Le musée du Titanic que j'ai fait à voir également est Belfast. Dans chaque ville ou village, en Irlande du Nord ou en Air, il y a un pub, lieu de vie des Irlandais. J'ai visité également la brasserie Guinness à Dublin, ainsi que la distillerie Jameson. Puis à Dublin, j'étais au Théâtre National Folklorique Irlandais, ainsi que visité l'Aviva Stadium et le Trinity College.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.